26 janvier 1983, Curière, session du Père Marie-Dominique Philippe sur la charité, première conférence.
Nous allons continuer de préciser le sujet de la charité, c'est-à-dire l'enracinement de la charité. C'est comme ça qu'il faut, je crois, le comprendre. Parce que quand on dit sujet de la charité, on ne voit pas très bien. C'est de voir la perspective que les pères de l'Église ont toujours eue par rapport à la grâce et par rapport aux vertus théologales, ces greffes divines qui s'enracinent profondément au plus intime de notre âme. Et comment la foi est reçue au plus intime de l'intelligence et l'espérance et la charité dans la volonté. Alors, je ne reprends pas, nous étions à la question 24, article 7, hein. Je ne reprends pas tout ce qui était avant, mais si vous voulez, on regarde simplement l'organisation de la question, puisque la question est toujours une unité. Donc la charité est-elle dans la volonté? Elle est donc reçue dans notre volonté. Est-elle produite en nous par des actes antérieurs ou par une infusion divine? Elle est produite directement par Dieu. Nous ne pouvons pas mériter la charité. Est-elle infusée en nous d'après nos capacités naturelles? Prologue de Saint Jean. Ce n'est pas selon nos capacités naturelles que l'intensité de la charité nous est donnée, mais selon la volonté de Dieu. Et selon, en réalité, la charité du Christ. La charité s'accroît-elle chez ceux qui la possèdent? Oui. La charité peut croître, parce que la charité se développe à travers la foi et l'espérance, et à cause de la foi et de l'espérance, la charité peut croître. La charité ne pourra plus croître dans le ciel, quand nous verrons Dieu face à face. Tandis qu'ici, sur la terre, à cause de la foi et de l'espérance, la charité peut croître. L'épreuve de la foi et de l'espérance permet à la charité la croissance. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Et au fond, c'est très important. Quand c'est rude au point de vue de la foi, il faut se dire que c'est pour la charité grandisse. Et c'est très souvent ce qui arrive, parce que ça nous oblige de faire des actes plus grands d'amour. S'accroît-elle par addition, nous avions du non. S'accroît-elle à chacun de ces actes, nous avions vu non. Il y a des moments, il y a un rythme. S'accroît-elle à l'infini? C'est ce que nous allons voir maintenant. La charité peut-elle croître indéfiniment? Voici la réponse de saint Thomas. L'apôtre dit, ce n'est pas que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir. Et à ce propos, la glose dit, aucun fidèle, même après avoir beaucoup progressé, ne peut dire « cela me suffit ». Celui qui parlerait ainsi s'évaderait des conditions de la vie terrestre avant son terme. La charité peut donc ici-bas croître de plus en plus. C'est comme l'amour. L'amour volontaire, pas l'amour passionnel, mais l'amour volontaire, l'amour spirituel, peut croître toujours. Peut toujours aller plus loin. L'amour passionnel, non, parce que quand nous commençons à vieillir, les passions vieillissent aussi. Alors il y a un moment de croissance, il y a un palier, il y a un haut plateau. Vous voyez, il y a un moment où les passions ne peuvent plus croître. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas très retorses et qu'elles prennent d'autres points de vue. C'est ce que j'avais vu en Afrique. Je me souviens, au Zaïre, vous savez, ce fameux volcan qui avait éclaté il y a quelques années, ça m'avait semblé quelque chose d'assez extraordinaire. Parce qu'on surveillait ce volcan. Alors, il y avait des gens qui étaient surveillés, ils surveillaient le cratère. Ils étaient là. Et puis le volcan, tout d'un coup, a craché sur le côté. Non pas sur le cratère, mais sur le côté. Alors, les surveillants étaient là et ils crachaient de l'autre côté. Alors, c'est très significatif pour les patients. Quand on est jeune, elle crache par le cratère. Et quand on vieillit, c'est sur le côté. Vous n'avez qu'à regarder les vieillards chez Suzanne dans l'écriture. Alors, vous voyez tout de suite ce que ça signifie. Alors, nous, maintenant, la conclusion du corps de l'article. L'accroissement d'une forme peut avoir une limite pour trois raisons. Donc, la manière dont l'augmentum, la croissance d'une forme peut avoir trois limites. Soit à cause de la forme elle-même, car une forme a une nature limitée. Enfin, prenez pour la croissance tout simplement d'une plante. Elle a en soi une limite. On pourrait essayer de la faire croître le plus qu'on peut par des procédés artificiels, mais en réalité, elle a une limite à l'aine. Chacun d'entre nous, du reste. À un moment donné, on n'a plus augmenté de croître. On s'est arrêté. Donc, soit à cause de la forme elle-même, car une forme a une mesure limitée. Une fois cette mesure atteinte, on ne saurait aller au-delà sans passer à une autre forme. Ainsi en est-il d'une couleur grise dont la teinte se trouve modifiée par un changement de couleur continu, passant ainsi au blanc ou au noir. Soit à cause de l'agent, donc la cause efficiente, hein, l'agent, soit à cause de l'agent, si sa vertu active n'est pas suffisante pour accroître davantage la forme dans le sujet. La vertu active de celui qui agit de l'extérieur est elle-même limitée. Donc, la forme connaîtra aussi cette limite. Soit en raison du sujet, s'il n'est pas lui-même susceptible d'une perfection plus grande. Surtout le sujet vu au niveau physique. Parce qu'un sujet vu au niveau spirituel, il n'y a pas de raison d'arrêt. Oui. L'âme spirituelle ne vieillit pas. C'est la carcasse qui vieillit. Mais l'âme spirituelle ne vieillit pas. Donc, on peut toujours progresser du côté de l'intelligence et de la volonté. Tout le temps. Il y a quelque chose qui peut grandir toujours, s'approfondir toujours plus. Or, pour aucun de ces motifs, on ne peut assigner de terme à l'accroissement de la charité ici-bas. En effet, la charité considérée dans sa nature spécifique, dans sa nature propre, n'a rien qui limite son accroissement, car elle est une participation de la charité infinie qui est l'Esprit Saint. Donc, souvenez-vous bien, hein, c'est toujours, le lien entre la charité et l'Esprit Saint, c'est très très important, surtout par rapport à la théologie des orthodoxes, pour bien montrer que l'Église latine, dans ses meilleurs théologiens, n'a jamais oublié ça. Je ne peux pas parler de la charité sans parler de l'Esprit Saint. Alors, les orthodoxes, quelquefois, dans certains aspects, identifieraient les deux. Il y a quelque chose de vrai, parce que la charité est une participation formelle de l'Esprit Saint. Par la charité, nous vivons de l'Esprit Saint. Et nous vivons sous le rythme de l'Esprit Saint. Or, comme justement la charité infinie, qui est l'Esprit Saint, n'a pas de limite, la charité qui est en nous, en elle-même, n'a pas de limite. Elle peut croître toujours. De même, la cause qui accroît la charité est d'une vertu infinie, puisque c'est Dieu. C'est Dieu qui est source de la charité. Alors, comme Dieu est source de la charité, il n'y a pas de limite du côté de Dieu. Donc, il n'y a pas de limite du côté de la vertu active. Enfin, du côté du sujet, on ne saurait non plus fixer de terme à l'accroissement de la charité. Car toujours la charité augmentant, l'aptitude à augmenter encore s'accroît d'autant plus. Plus nous aimons, plus nous devenons capables d'aimer. C'est vrai au point de vue humain aussi. C'est très curieux, ça. Plus nous aimons, plus nous devenons capables d'aimer. C'est pour ça qu'on a toujours soif d'aller plus loin. Et dans l'ordre surnaturel, encore beaucoup plus. Il reste donc qu'ici-bas, on ne peut assigner aucune limite à l'accroissement de la charité. Donc oui, c'est assez facile à comprendre, et c'est toute une vision théologique que saint Thomas nous donne ici. On parle de la croissance, donc, de la charité. Saint Thomas prend tout simplement la croissance de n'importe quelle forme. Prenez forme, n'importe quelle qualité, si vous voulez. Forme, qualité. N'importe quelle forme. Alors, on voit très bien quelles sont les limites de la croissance d'une qualité ou d'une forme. Premièrement, c'est que cette forme est elle-même limitée. Vous avez notre vie végétative est limitée. Nous avons un rythme de vie végétative qui fait que les limités, que nous ne serons pas gros comme un éléphant. C'est impossible. Donc la forme humaine, la nature humaine, c'est une forme. L'âme humaine, c'est une forme. Donc elle est limitée en elle-même. Elle a son rythme de croissance. Deuxièmement, la source d'où vient cette forme. Cette source peut être limitée. Donc, si elle a produit un fruit et que ce fruit correspond bien à la dimension de cette source, ça n'ira pas plus loin. Troisièmement, le sujet. Le sujet en qui se trouve, en qui est reçue cette forme. Alors, vous voyez, l'âme humaine est limitée en elle-même, la source, alors là, n'est pas limitée, puisque la source de notre âme, c'est Dieu, mais le sujet, c'est notre corps, il est limité. Tandis que la charité, elle, la charité n'est pas limitée en elle-même. Pourquoi ? Parce qu'elle est sur le modèle de l'Esprit-Saint. Il y a quelque chose d'infini dans la charité. Dans toute charité, il y a quelque chose d'infini, puisque c'est une participation directe à l'Esprit-Saint, qui lui-même est infini. Il n'y a pas de limite en Dieu. Donc, pas de limite du côté de la charité. Elle peut croître indéfiniment. Elle ne sera que plus charité. La source, c'est la très sainte Trinité, pas de limite. Et le sujet, c'est la volonté. Et notre volonté humaine a une capacité infinie d'amour. Et donc, du côté du sujet, la charité peut croître toujours. Et plus vous aimez de charité, plus vous devenez capable de recevoir un accroissement de charité. On comprend ça. Je vous dis, c'est tout simplement le fait de la volonté comme telle, c'est déjà vrai au point de vue humain. Il n'y a pas de limite dans l'amour d'amitié, par exemple. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une limite dans l'amour d'amitié. Quelqu'un qui dit, ah, j'aime assez maintenant, je veux me reposer. Alors on plafonne. Mais le plafonnage dans ces conditions-là provient non pas de l'amour d'amitié, mais provient tout simplement de la source de cet amour d'amitié. On est fatigué. On est fatigué pour des quantités de motifs. Mais au fond, en elle-même, l'amour, en lui-même, l'amour n'a pas de limite et demande d'aller toujours plus loin. C'est pour ça qu'on dit que c'est le feu. Oui, c'est le symbolisme du feu qui doit toujours grandir. Évidemment, la flamme physique, elle, est limitée. Donc je crois qu'il n'y a pas beaucoup de questions là, pas de grosses difficultés. Je vais prendre tout de suite l'article suivant. La charité peut-elle être parfaite en cette vie? Ça, c'est une question très importante. Pouvez-vous être satisfait de vous-même en cette vie et dire « j'ai une charité parfaite » Dans la plus grande humilité, je dois vous dire que j'ai une charité parfaite. J'aime vraiment parfaitement. Alors, la charité peut-elle être parfaite en cette vie? Réponse. Saint Augustin écrit « La charité ne se renforçant, se perfectionne. Quand elle atteint la perfection, elle dit « Je désire mourir et être avec le Christ. » Or, cela est possible en cette vie, puisqu'il en fut ainsi chez Saint Paul. La charité peut donc être parfaite en cette vie. Alors, les petites distinctions que saint Thomas va faire. Hein. Parce que ça, c'est assez gros, mais c'est à l'égard d'un saint. Alors on peut dire évidemment, tous les saints, on peut dire ça. Je désire mourir et être avec le Christ. Je suis persuadé que tous les saints, au terme de leur vie, atteignent la perfection de la charité. Ça, c'est sûr. Le père Kolb a terminé sa vie par un acte héroïque d'amour. Donc il a terminé sa vie par un acte héroïque d'amour. Et cet acte héroïque d'amour montre bien qu'il a atteint la perfection dans l'amour. Alors, précisons. La perfection de la charité peut être envisagée de deux points de vue. Vous voyez ça tout de suite, le théologien qui distingue. Hein. Premièrement, par rapport à l'objet aimé. Deuxièmement, par rapport à celui qui aime. Par rapport à l'objet aimé, la charité est parfaite quand une chose est aimée autant qu'elle est aimable. Or, Dieu est aussi aimable qu'il est bon. Et comme sa bonté est infinie, il est infiniment aimable. Mais aucune créature ne peut aimer Dieu infiniment, puisque toute vertu créée est limitée. Par conséquent, de ce point de vue, la charité ne peut être parfaite en aucune créature. Seule peut l'être la charité par laquelle Dieu s'aime lui-même. C'est-à-dire l'Esprit Saint, si vous voulez. L'Esprit Saint peut seul aimer Dieu autant qu'il est aimable. Qu'est-ce qu'il y a ? Le Christ dans son humanité, même pas. C'est comme la vision béatifique du Christ. Le Christ dans son humanité n'a pas la compréhension absolue du Verbe de Dieu. C'est infini, mais c'est quand même créé. Tandis que l'Esprit Saint a quelque chose d'infini. Le cœur de Jésus, la volonté humaine du Christ étant créée, n'est pas adéquate à l'Esprit Saint. Oui. Du côté de celui qui aime, on dit que la charité est parfaite quand on aime autant qu'il est possible d'aimer. Et cela arrive de trois manières. D'abord, parce que tout le cœur de l'homme se porte de façon actuelle et continue vers Dieu. Voilà le cœur de Jésus. Ici, vous avez la théologie du cœur du Christ, hein, au point de vue de l'infini. Et cela arrive de trois manières. D'abord, parce que tout le cœur de l'homme se porte de façon actuelle et continue vers Dieu. Et telle est la perception, la perfection de la charité du ciel. Elle n'est pas possible en cette vie, où en raison de l'infirmité humaine, on ne peut être continuellement en acte de penser à Dieu et de se préparer directement vers lui. Et de se porter affectueusement vers lui. En deuxième lieu, donc premièrement, se porter autant qu'on le peut. Toutes les virtualités de la charité, toutes les virtualités de la volonté sont actuées par la charité et se portent toujours en acte. Donc, ça ne peut exister ici-bas que pour l'âme du Christ. C'est le cas unique. La Vierge aussi, d'une certaine manière. Oui. Vous allez voir. En deuxième lieu, parce que l'homme s'applique tout entier à vaquer à Dieu et aux choses divines, en laissant tout le reste, sauf ce que requièrent les nécessités de la vie présente. Telle est la perfection de la charité qui est possible ici-bas. Elle n'est toutefois pas le partage de tous ceux qui possèdent la charité. Enfin, lorsqu'on donne habituellement tout son cœur à Dieu, au point de ne rien penser, ni de ne rien vouloir qui soit contraire à la divine direction. Et telle est la perfection qui est commune à tous ceux qui ont la charité. Oui, 3 degrés. Hein. C'est pour ça que je crois que seul le Christ est le premier, le second c'est Marie. À cause de la foi. Je crois que le premier c'est le Christ. Vous voyez ? Il est toujours en acte. Le second c'est Marie, parce que le point de vue de la foi ne supprime pas le conditionnement humain. Alors Dieu nous demande, il a demandé à Marie d'être maîtresse femme à Cana. Il a demandé à Marie, à Nazareth, d'être maîtresse femme. Et donc, nécessairement, il y avait des moments où Marie devait s'adonner aux choses de la nécessité de la vie. Et donc, ne pouvait pas aimer avec la même intensité. L'Esprit Saint pouvait le réaliser, mais elle ne pouvait pas aimer avec la même intensité. Elle devait être attentive à des quantités de choses secondaires. Mais quand, au point de vue prudence, vous devez être attentive à des choses secondaires, vous ne pouvez pas aimer avec la même intensité que quand vous êtes en oraison. C'est sûr. Quand on est en oraison, on peut être tout entier présent. Tandis que quand on est obligé de faire la cuisine, pour des choses secondaires, on doit être présent à ces choses secondaires, puisque ça nous est demandé dans l'obéissance. Alors la troisième, c'est simplement une présence habituelle. Alors je vois la seconde objection, si vous voulez. Ce qui nourrit la charité, affirme saint Augustin, diminue la convoitise. Là où se trouve la perfection, il n'y a aucune convoitise. Ah, cela n'est pas possible en cette vie où nous ne pouvons être exempts de péché, selon la parole de saint Jean. Si nous disions, nous n'avons pas de péché, nous nous abusons. Et tout péché procède d'une certaine convoitise désordonnée. Par conséquent, la charité ne peut pas être parfaite dans cette vie. Alors, réponse. L'affirmation de saint Jean concerne les péchés véniels qui ne sont pas contraires à l'habitus de charité, mais à son acte. Ne répugne-t-il pas à la perfection d'ici-bas, mais à la perfection du ciel ? Oui, la perfection du ciel, toujours en acte, dans la vision béatifique. Pas de questions ? On peut continuer. Vous voyez bien. J'espère. Article 9. Convient-il de distinguer 3 degrés dans la charité ? La charité des commençants, la charité des progressants, la charité des parfaits. Alors, mettez-vous sur 3 rangs. La charité des commençants, la charité des progressants, la charité des parfaits. Saint Augustin dit: quand la charité est née, elle est nourrie. Ce qui a trait au commençant. Quand elle a été nourrie, elle se fortifie. Ce qui se rapporte au progressant. Quand elle a été fortifiée, elle est rendue parfaite. Ce qui s'applique au parfait. Il y a donc 3 degrés de charité. Sous certains rapports, l'accroissement spirituel de la charité peut être comparé à la croissance corporelle de l'homme. Or, bien qu'on puisse distinguer en cette croissance un grand nombre de parties différentes, elle offre cependant certaines distinctions bien déterminées, caractérisées par les activités ou la préoccupation ou les préoccupations auxquelles l'homme est amené à mesure qu'il grandit. Ainsi, applique-t-on enfance l'âge de la vie qui précède l'usage de la raison. Vient ensuite un autre état de l'homme qui correspond au moment où il commence à parler et à user de la raison. Un troisième état est celui de la puberté, quand l'homme devient capable d'engendrer. Et ainsi, depuis ce point jusqu'à ce qu'il ait atteint son dévouement parfait. De même. Donc c'est une analogie très importante que saint Thomas reprend constamment. L'analogie des commençants, l'analogie de ceux qui commencent un tout petit peu à se débrouiller, si vous voulez, et puis l'analogie de celui qui est capable d'être source de vie de nouveau. De même, en distinguant divers degrés de charité d'après les préoccupations dominantes auxquelles l'homme est amené par le progrès de sa charité, d'abord, son souci principal doit être de s'écarter du péché et de résister aux concupiscences qui le poursuivent. En sens contraire de la charité. C'est-à-dire, tout l'effort est d'éviter le péché. Tout l'effort est de sortir du marécage. C'est vraiment l'effort premier, ça. Et cela convient, et cela concerne les débutants, chez qui la charité doit être nourrie et entretenue, de peur qu'elle ne se perde. Donc, un aspect négatif, vous voyez, lutter contre les tentations. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas tout le temps, hein, faisons. La dominante, quand l'effort dominant est de lutter contre les tentations, vous êtes au point de départ de la charité. C'est très important de bien le comprendre et de ne pas le matérialiser. Comme effort principal, éviter le péché. Parce que le péché est contraire à la charité. Donc, un aspect négatif, éviter le péché. C'est ça avant tout. Une deuxième et principale préoccupation vient ensuite, celle de tendre à avancer dans le bien. Donc, c'est l'effort. L'effort de sainteté. C'est l'effort de progresser, d'avancer. Un tel souci est celui des progressants. Qui visent surtout à ce que leur charité, en croissant, soit fortifiée. Enfin, se fait pour une troisième sollicitude, oui, un studium, hein, c'est intéressant de voir l'expression de saint Thomas, tertium studium, le studium, c'est l'effort, c'est l'application. On est appliqué à studium, vous voyez, on dira l'application. Donc enfin se fait jour une troisième sollicitude par laquelle l'homme cherche principalement à s'unir à Dieu et à jouir de lui. Donc troisième effort, troisième application, être uni à Dieu. Ça, c'est la division classique. Saint Thomas reprend, c'est pas Saint Thomas qui l'a inventé, c'est une division très classique. Donc, à s'unir à Dieu et à jouir de lui. Et cela s'applique aux parfaits qui désirent mourir et être avec le Christ. Ainsi, dans le mouvement corporel, distinguons-nous pareillement ces trois moments. L'éloignement d'un point de départ, le rapprochement du terme, enfin le repos en celui-ci. Donc on va retrouver cette chose très simplement que saint Thomas prend tout le temps. Tout mouvement, tout devenir implique, on sort d'un terminus aquo. Terminus aquo, hein. C'est-à-dire le point de départ. À partir de quoi on s'en va? Donc il y a ça. Il y a terminus ad quem, c'est le but. Être uni au but. Terminus ad quem. Et puis entre deux. Très facile, hein? Il y a deux extraits, il y a moyen. Donc dans tout mouvement, il y a trois. Oui, le chemin dialectique, les deux extrêmes, puis le métaxu. Il y a quelque chose de juste pour le devenir, c'est pas vrai pour l'intelligence. Ainsi, dans le mouvement corporel, distinguons-nous pareillement ces trois moments, l'éloignement du point de départ, le rapprochement du terme, enfin le repos en celui-ci. Je me repose dans le terme. La charité peut-elle diminuer? Vous voyez, on pourrait dire que ça, c'est le rythme de la charité. Commençant, progressant, et puis parfait. Première étape, vous voyez bien, noviciat. Noviciat, c'est deuxième étape, après la profession. Troisième étape, quand on arrive à être un vieux père. À ce moment-là, c'est le repos dans le terme. C'est celle-ci qui est évidemment est la plus longue. C'est sûr, celle-là la plus longue. Alors, il faut comprendre. Comprenons bien, hein, parce que c'est très important de comprendre ça. C'est une question d'accent. Parce que dans tout acte de charité, vous avez les trois. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est intéressant de voir le petit schème que donne saint Thomas, le petit schème du devenir, le petit schème du mouvement. Dans le mouvement extérieur, c'est bien évident, quand je quitte un endroit pour aller à un autre endroit, entre deux, il y a un intermédiaire. Une zone intermédiaire, ça ne peut pas être autrement. Mais quand il s'agit d'un mouvement spirituel que représente l'amour, comme il y a dans le point de vue de l'amour divin, il faut comprendre qu'il n'y a pas de juxtaposition, il n'y a rien d'extérieur. Donc, tout mouvement de charité me fait quitter le péché. Tout mouvement de charité me met en Dieu. Et tout mouvement de charité mobilise en moi toutes mes forces pour aller plus loin. Oui. Donc il faut bien, c'est, ne mettez pas ça avec des juxtapositions extrinsèques. Hein, en disant, un commençant, ah, il ne peut pas du tout avoir des grâces d'union. Ou bien en dire, ah, tiens, ah oui, j'ai eu des grâces d'union, oui. Alors raison,
Bon, je suis au terme.
Oh non. Très vite, Dieu nous donne des grâces d'union. C'est ce que dit la grande sainte Thérèse. Très vite, Dieu nous donne des grâces d'union pour que nous comprenions où nous allons. Pour que nous comprenions ce que c'est que la charité. La charité est contemplative. Elle demande de se reposer en Dieu. Que la charité horreur du péché et que la charité me donne un dynamisme merveilleux pour avancer. Donc tout acte de charité implique les trois. Mais on met un accent, et c'est pour ça qu'il appelle studium, l'application. Il y a une application beaucoup plus grande selon trois aspects différents. Saint Jean de la Croix dit que c'est très important de bien comprendre ces trois aspects. Pour ne pas confondre, prenez, ne demandez pas à quelqu'un qui est vraiment à ce numéro 2, n'est-ce pas, de revenir tout le temps numéro 1. Comme quelqu'un qui sera au numéro 3 devrait dire au numéro 1 ou au numéro 2. Il y a un progrès, mais ça n'empêche pas que, encore une fois, les trois moments sont impliqués l'un dans l'autre. Pas de questions ? Allons-y. Pour avancer. La charité peut-elle diminuer ? Au livre des Cantiques, la charité est comparée au feu. Ses traits, c'est-à-dire ceux de la charité, sont des traits de feu, comme une flamme de Yahvé. Or, le feu, tant qu'il dure, monte toujours. Donc la charité, tant qu'elle subsiste, peut monter. Mais elle ne peut pas descendre, c'est-à-dire diminuer. Oui, c'est, comme raisonnement, c'est admirable. Hein? Le feu monte toujours, oui, mais à un moment donné, il disparaît. Vous voyez le feu, il disparaît à un moment donné. Alors la charité, si elle est comme le feu, c'est très bien. Puis tout d'un coup, ça disparaît, il ne voit plus rien du tout. Alors vous allez dire, elle diminue et elle disparaît. Alors on va voir comment saint Thomas va raisonner ici. Là, il a raisonné sur un mode symbolique, le mode du feu, pour nous orienter. La quantité de la charité, qui est relative à son objet propre, ne peut pas diminuer, pas plus qu'elle ne peut s'accroître, comme on l'a vu plus haut. Mais puisque la charité s'accroît selon la quantité qu'elle possède dans son rapport à son sujet, on peut se demander si, de ce point de vue, elle peut aussi diminuer. La charité ne peut pas augmenter du côté de son objet. La moindre acte de charité me fait atteindre Dieu en lui-même. Donc du côté de son objet, elle ne peut pas s'intensifier. Mais du côté du sujet, du côté de l'enracinement dans le sujet, ah, c'est autre chose. Elle peut augmenter dans son enracinement pour le sujet. Ça, je crois que c'est très important à bien voir ça. Alors du côté de son objet, elle ne peut pas. Mais du côté de son enracinement dans le sujet, oui. Mais puisque la charité s'accroît selon la quantité qu'elle possède dans son rapport à son sujet, on peut se demander si, de ce point de vue-là, elle peut diminuer. Dans l'hypothèse où elle serait diminuée, il faudrait qu'elle le fût par un acte ou seulement par cessation d'acte. Par cessation d'acte sont diminuées les vertus qui sont acquises par des actes. Parfois même, elles sont détruites, comme on l'a vu plus haut. C'est pourquoi Aristote dit à propos de l'amitié, « Bien des amitiés sont détruites parce que l'ami n'est plus appelé. » On dirait aujourd'hui « interpellé ». N'est-ce pas ? C'est-à-dire du fait qu'on ne l'appelle plus ou qu'on ne lui parle plus. Il en est ainsi parce que la conservation d'une chose dépend de sa cause. Or, la cause d'une vertu acquise, c'est l'acte humain. Si donc cessent les actes humains, cette vertu acquise s'affaiblit et finit par se perdre totalement. Oui. Vous ne faites plus jamais aucun acte d'humilité. Alors à ce moment-là, la vertu d'humilité tend à disparaître. Parce que la source de la vertu d'humilité, c'était justement un acte d'humilité. Donc la source. Mais cela n'a pas lieu pour la charité, qui est produite par Dieu seul, et non pas par des actes humains, comme on l'a dit précédemment. Il s'ensuit que, même si son acte vient à cesser, la charité ne peut pas pour autant diminuer, ni être détruite, si du moins le péché n'est pour rien dans cette cessation. J'arrête de faire des actes de charité, comme la charité provient de Dieu et non pas de moi, parce que c'est une vertu infuse, elle demeure. Dieu ne supprime pas l'influx de la charité, parce qu'il n'y a plus d'actes de charité. Donc, elle demeure. Évidemment, elle n'augmente plus. Mais elle ne demeure, elle ne diminue pas. La charité ne peut pas s'enrouiller, si vous voulez, voilà. Tandis que l'humilité, ça peut s'enrouiller. Si vous n'avez pas fait beaucoup d'actes d'humilité pendant un certain temps, ou d'obéissance, si vous voulez. Vous n'avez pas fait beaucoup d'actes d'obéissance pendant un certain temps, au bout d'un certain temps, il disparaît. C'est pour ça qu'on dira qu'il faut l'exercice. Il faut en faire le plus possible pour que ça ne se rouille pas. Pour que ça demeure en acte. De ce qui précède, on doit conclure que la diminution de la charité ne peut avoir d'autre cause que Dieu ou quelque péché. Mais aucune déficience ne peut nous être infligée par Dieu, sinon par mode de peine, selon qu'il nous retire sa grâce en peine du péché. C'est ainsi qu'il ne peut diminuer en nous la charité que par mode de peine, celle-ci étant due au péché. Il reste donc, si la charité vient à diminuer, que la cause ne peut en être que le péché, celui-ci agissant soit par mode d'efficience, soit en le méritant. Or, ni d'une façon, ni de l'autre, le péché mortel ne diminue la charité, mais il la détruit totalement. Et par mode d'efficience, parce que, comme on le dira plus loin, tout péché mortel est contraire à la charité, et en le méritant, car celui qui, en péchant mortellement, agit contre la charité même, car celui qui, en péchant mortellement, agit contre la charité, même que Dieu agit contre la charité, mérite que Dieu la lui retire. Donc il mérite que Dieu la retire parce qu'il pêche contre la charité. Mais voyez bien, il ne s'agit pas de la diminution, il s'agit de la suppression de la charité par un acte de péché. Semblablement, même par le péché véniel, la charité ne peut pas être diminuée, pas plus par mode d'efficience que méritoirement. Pas de la première manière, donc par mode d'efficience, car le péché véniel n'atteint pas la charité elle-même. Celle-ci, en effet, porte sur la fin dernière, tandis que le péché véniel est un désordre qui est relatif aux moyens. Or, l'amour d'une fin ne se trouve pas diminué du fait que l'on tombe dans quelque dérèglement à l'égard des moyens. Il ne faut pas le faire de trop. Oui, c'est ça. Parce qu'en disant que c'est un moyen, ça prend beaucoup d'importance. Alors, au bout d'un certain temps, ça conduit au péché. Mais en lui-même, un acte de péché véniel ne diminue pas la charité. Ça l'encrasse quant à son exercice. Mais ça ne diminue pas la charité. La charité est comme vertu. Or, l'amour d'une fin ne se trouve pas diminué du fait que l'on tombe dans quelque dérèglement à l'égard des moyens. Ainsi, voit-on certains malades qui tiennent beaucoup à leur santé faire certains accrocs au régime qui leur est prescrit. De même, dans les sciences spéculatives, les opinions fausses qui concernent les conclusions ne diminuent pas la certitude des principes. Pas davantage le péché véniel ne mérite que la charité soit diminuée. Mais c'est très joli comme comparaison, saint Thomas. Si quelqu'un, en effet, est fautif dans les petites choses, il ne mérite pas de subir un détriment dans un intérêt majeur. Dieu ne se détourne pas davantage de l'homme que celui-ci ne se détourne de lui. Par conséquent, celui dont le dérèglement ne porte que sur les moyens ne mérite pas de subir un détriment dans sa charité, par laquelle il est ordonné à la fin dernière. La conséquence de tout cela est que la charité ne peut d'aucune manière subir de diminution, si l'on prend ce mot dans son application directe, dans sa signification directe. Cependant, on peut indirectement appeler diminution de charité ce que...